Grand Dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes lundi 27 octobre 2014. Bienvenue à cette nouvelle édition du Grand Dialogue consacrée au énième débat sur le virus Ebola. Et oui, après le décès du seul cas confirmé au Mali, nous tentons de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Voici ce qu'il sera, de quoi il sera question dans ce débat. Le point de la situation, les dispositions et les plans de contingence. Et enfin, les risques. Risque-t-on une psychose au Mali à cause de ce décès de la petite fille à Kaye? Aujourd'hui, nous avons comme invité Dr Toumani Konare de l'hôpital Fousséni Ndao de Kaye, le Dr Ibrahima Guindo de l'Institut National de Recherche en Santé Publique et enfin Marc Kachendao, chargé de communication au ministère de la Santé. Bonjour à vous messieurs et bienvenue à ce débat. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Doura est à la technique.
Studio Tamani.
Alors tout d'abord, comme vous l'avez entendu dans notre édition, dans nos éditions en langue, aucune des 48 personnes placées sous surveillance médicale à Kaye à la suite du premier cas d'Ebola qui a causé la mort d'une fillette de 2 ans ne présente de signes de contamination. Cette précision vient du ministère de la Santé. Alors Marc Kachendao, vous êtes du ministère de la Santé, vous êtes chargé à la communication, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Merci pour cette question. Je pense bien que le Mali est dans une dynamique de prévention depuis un peu plus de 8 mois. Pendant ces 8 mois, nous n'avons pas connu de cas. Et cela est un motif de satisfaction. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé qui l'a dit il y a un peu plus de 3 semaines. Bien avant, il y avait l'OMS avec qui... L'OMS Mali, avec qui nous avons fait tout ce travail et qui a apprécié notre dispositif depuis le début. Il y a aussi les partenaires américains et les partenaires, d'autres partenaires internationaux qui ont évalué notre dispositif et qui l'ont trouvé vraiment efficace et à niveau. D'aucuns l'ont qualifié de 80% satisfaisant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La question est assez pertinente. Elle est pertinente parce que, d'autant plus que nous avons enregistré un cas importé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux dire là, la communication. Parce que le Mali et la Guinée, depuis le début, sont dans un système de mutualisation des efforts. Nous nous informons en temps réel sur la situation d'un pays comme dans l'autre. Et cela a marché jusqu'à la date où nous avons enregistré ce premier cas. Parce que bien avant ce premier cas confirmé, le Mali recevait des informations de la part de ses partenaires guinéens. Les deux ministres échangeaient les idées fréquemment sur la question. Et aussi, nos techniciens mutualisaient les efforts. Cela nous a permis d'éviter de connaître un premier cas suspect qui a fallu créer une panique, une psychose générale à Bamako. Mmh. C'était à Sébeninkoro, si vous vous rappelez bien. Le monsieur avait échappé au système de contrôle en Guinée et il nous a été filé et nous avons fait tout ce qu'il fallait pour le retrouver. Et même si nous avons fait recours aux moyens, je vais dire mani militari pour pouvoir entrer en contact. Juste pour vous dire que nous ne ménageons pas d'efforts pour préserver la santé de la population malienne.
D'accord. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, quelques jours après le décès du seul cas confirmé d'Ebola dans le pays? Docteur Guindo, vous êtes de l'Institut National de Recherche en Santé Publique.
Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer par rapport à ce problème qui est un problème mondial, pas seulement le Mali. Pour rejoindre mon collègue...
Marc Kaché.
Oui. Je n'allais pas dire tout de suite forcément qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer. On est face à une épidémie mortelle d'une telle ampleur pour la première fois dans notre pays. On a eu 7 à gérer d'autres épidémies, mais qui n'ont pas une mortalité aussi élevée. Donc on est dans des régions où on a affaire avec à la fièvre jaune, à de la rougeole, à des méningites, où on a connu des épidémies. Et on a une forte expérience, une expérience très solide dans ces domaines qui nous ont permis de nous en sortir et qui nous permettent de maîtriser grâce à la surveillance épidémiologique de ces pathologies. Donc, comme je le disais tout à l'heure, face à cette situation qui est beaucoup plus mortelle et beaucoup très dangereuse, reconnue mondialement par tout le monde, et on allait réfléchir en termes de qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que cela, certes, est une première expérience pour nous. Donc, un cas à présent, depuis le début de l'épidémie, le Mali est un pays vraiment à féliciter pour l'organisation et les dispositions.
Nous allons voir cet aspect. Hein, qu'est-ce qu'il faut améliorer, aujourd'hui, okay. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que la malade se retrouve à Kaye. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous, Dr Guindo?
Bon, je toujours rejoindrai mon collègue.
D'accord.
Ça pourrait être un problème d'information, mais c'est une question assez difficile parce qu'on a vu les différents acteurs à l'œuvre, que ce soit les agents de santé, les agents sociaux, la presse qui fait énormément si bien ce travail pour informer, donner le maximum d'informations à la population. Donc, à présent, c'est pour cela que je reviens sur ce point. Moi, je dirais plutôt...
Alors, nous allons rentrer plus en détail, donc, si vous voulez bien, en profondeur dans le débat. Juste le temps de faire réagir docteur Toumani Konaré de l'hôpital Fousseyni Ndao de Kaye. Alors, docteur, dites-nous quelle ambiance prévaut à Kaye aujourd'hui après le décès de la petite fille.
Bon, aujourd'hui à Kaye, l'ambiance est plutôt calme par rapport au premier jour où le cas a été déclaré positif. C'est vrai, il y avait une panique tant au niveau du personnel de santé que de la population générale. Mais avec l'implication de plusieurs autorités, à commencer par le gouverneur de la région, les agents de santé, les ONG, les associations, je crois que l'information est en train d'être faite de façon intensive et de plus en plus les gens sont apaisés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, mais pour répondre à votre question, je crois que
alors, docteur, juste pour se faire le relais de la population, les yeux et les oreilles de nos auditeurs, aujourd'hui, un premier cas confirmé à Kaye, suivi du décès de la malade. Dites-nous si, à l'époque, vous étiez préparé à de telles circonstances.
En fait, voilà ce que je vais vous dire. L'hôpital Senda, comme vous le savez, c'est un établissement public hospitalier. Et à ce titre, nous devrons avoir un plan blanc. Le plan blanc prépare l'hôpital à faire face à des situations inhabituelles telles que nous vivons un cas maintenant. Dans ce cadre, nous avons élaboré notre plan blanc. Et dans ce cadre, nous avons mis en place un comité de crise et des comités d'intervention rapide qui sont fonctionnels présentement, qui s'occupent vraiment des cas isolés à l'hôpital. Et qui sur les deux comités se sont occupés vraiment de l'enfant malade. Donc, sur ce plan, on ne peut pas dire que vraiment on n'était pas préparé. Maintenant, on pourrait être mieux préparé. Là, c'est certain également.
Alors, dites-nous, en combien de temps est-ce que vous avez décelé le virus en la malade?
Bon, en une journée, l'enfant était là le matin vers 10h. Donc, les premiers signes n'étaient pas là. Mais le soir, déjà, les premiers signes sont apparus. Et immédiatement, l'enfant a été carrément isolé et suivi de d'autres dispositions, dont les prélèvements faits par Bamako qui a confirmé les cas, les lendemains. Donc, en moins d'une journée, en une demi-journée vraiment, puisque l'enfant, à l'entrée, ne présentait pas les signes. Mais au cours de l'hospitalisation, les signes ont commencé à apparaître, comme le personnel avait l'information. Bon, puisque le ministère de la Santé quand même a fourni beaucoup d'efforts dans ce sens, que ce soit à Bamako, que ce soit à Kourou-Malé, que ce soit à Kaye, à mon avis, il y a un système de surveillance qui est sur place qui a permis de détecter les cas. Et je crois que c'est à l'honneur du Mali, à l'honneur du système de surveillance épidémiologique du Mali.
Alors, docteur, aujourd'hui, on craint plus pour l'état de santé des personnes que la petite fille a côtoyées durant son passage à Bamako. Est-ce que le personnel soignant qui l'a soigné, qui l'a accueilli à l'hôpital Fousseyni Ndao était déjà dans les conditions de protection pour l'ausculter?
Ah oui. vous savez que dans le fonctionnement normal du service, ces consommables sont prévus. Maintenant, les contacts, c'est le contact. C'est pourquoi on a un certain nombre d'agents qui sont présentement, ils sont au nombre de 11, dont 4 de l'hôpital et 6 qui sont des stagiaires des différentes écoles, privées et publiques, et un qui est du secteur privé, praticien, qui avait d'ailleurs vu l'enfant avant de l'orienter vers l'hôpital Sendao. Donc on a 11 agents présentement en observation et qui ne présentent aucun signe de la maladie, ni de fièvre, ni d'autres signes d'accompagnement, dont la température est prélevée matin et soir.
Alors cela équivaut, est-ce que ces personnes-là également faisaient partie des 43 personnes mises en quarantaine?
Oui, oui. Elles font partie des 43 personnes.
Alors, vous estimez à combien de jours la contamination de la petite fille avant son décès?
C'est près d'une dizaine de jours.
Y a-t-il des risques?
La contamination au décès.
Alors, y a-t-il des risques aujourd'hui de contamination? Est-ce que le risque est minime ou bien il est assez large par rapport à la contamination des personnes que la petite fille a côtoyées lors de son passage ici dans la capitale?
Partant des informations que nous détenons, le maximum des personnes contactées a été retrouvé et isolé ou à l'hôpital ou à la maison. Maintenant, c'est de savoir est-ce que nous avons les noms de tous les contacts, en toi et ici et à Bamako, partout où l'enfant est passé, les autorités sont en train de s'employer pour retrouver les contacts. En tout cas, tous les contacts notifiés, pour le moment, ont été retrouvés, leur situation a été évaluée, les risques ont été évalués, ceux qui doivent être retenus à l'hôpital sont à l'hôpital, ceux qui doivent être suivis à domicile sont en train d'être suivis à l'hôpital, mais régulièrement, matin et soir, leur température est relevée et le suivi est fait.
Merci.
Donc, vraiment, partant des informations que nous avons, nous pouvons dire que les risques sont minimes, mais faisons attention, est-ce qu'on a toutes les informations, d'où la nécessité d'observer les mesures de prévention et d'écrire qui ont fait pour l'objet de communication du ministère de la Santé.
Merci beaucoup, docteur Doiton. Alors, peut-on parler de risque zéro avec le circuit emprunté par la petite fille et sa grand-mère? Je vous propose d'écouter un cadre de l'OMS par rapport à cette question.
La malade, quand elle a quitté la Guinée, elle a fait un transit à Bagadadi. La famille a été identifiée et on a identifié 25 personnes qui ont été en contact avec la malade. Et ces 25 personnes sont suivies matin et soir. Nous avons fait la situation même hier et aujourd'hui encore, on va suivre ces 25 contacts. Mais ce qu'il y a, je ne vous le cache pas, le car que la malade a emprunté de Bamako à Kaï, on ne connaît pas tous ceux qui ont emprunté le car. Tous ceux qui ont emprunté le car ne sont pas forcément rentrés en contact direct avec la malade, mais nous voulons avoir ces personnes et les interroger. On a eu la liste avec la compagnie de transport, mais on n'a pas leur contact. Mais on est en train de les chercher activement. Des centres d'isolement ont été identifiés. Si jamais on a un cas suspect, il y a un endroit où on peut le mettre et le suivre. Bon, vraiment, on peut dire à la population de se calmer, de garder la sérénité. Toutes les dispositions vraiment sont prises. On pense que la situation est maîtrisée.
2 secondes de pause et je vous proposerai de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit par ce cadre de l'OMS.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, nous sommes donc à la deuxième partie du Grand Dialogue. Merci d'être toujours fidèle à cette émission. Voilà, cette émission qui est consacrée au virus Ebola. Et cette deuxième partie parle donc des dispositions et du plan de contingence au Mali. Vous êtes nombreux à nous suivre ici au Mali grâce à nos 20 stations partenaires dans tout le pays. Nos invités, Dr Toumani Konare de l'hôpital Fousseyni Ndao de Kaï, Dr Ibrahim Aguindo de l'Institut National de Recherche en Santé Publique et Markaché Daou, chargé de communication au ministère de la Santé. Alors, docteur, vous avez entendu tout à l'heure le cadre de l'OMS qui parlait du couloir emprunté par la malade qui est décédée malheureusement à Kaï. Vous êtes spécialiste en santé publique. Aujourd'hui, quelles sont les mesures qu'il faut adopter dès qu'on sent un certain signe chez quelqu'un dans une famille, ou bien quelles sont les précautions d'hygiène qu'il faut adopter dans ce cas précis?
Okay.
Dans ces cas précis, ce sont les mêmes mesures qui sont publiées par les médias. Dès qu'on a un signe, un cas suspect, comme les pubs le passent à la radio et à la télévision, les numéros verts sont disponibles. Deux numéros verts sont disponibles. Donc systématiquement, la première des choses qu'on peut faire, c'est d'appeler le numéro vert. Et ce sont des spécialistes qui sont à l'écoute et vous donneront en ce moment à ces personnes-là qui ont appelé toutes les instructions qu'il faut et avant qu'une équipe d'intervention d'urgence parvienne et prenne le relais pour cela. Donc, mais en dehors de cela, en termes de mesures générales, je l'ai vu tout à l'heure, une des mesures très efficaces tout à l'heure en rentrant dans vos locaux, c'est l'utilisation du gel de solution hydroalcoolique. Donc, c'est l'hygiène des mains. Une solution très efficace.
Gel qu'on ne trouve plus dans les supermarchés. Hein. Tous les supermarchés ont été pris dans ça.
Oui, ont été pris dans ça, effectivement. Donc, une solution très efficace qui peut, au-delà même de la maladie virus à Ebola, qui peut atténuer la transmission de tout ce qui est comme maladie manuportée, c'est-à-dire qui peut être transmis à travers les mains. Donc, ça, c'est une solution qui est accessible à presque, je dirais, toute la population. Donc, et nous comptons énormément sur l'information que les médias vont passer afin que les gens puissent vraiment faire de ça leur quotidien à tout moment, à tout instant. Dès qu'il y a se laver les mains, on ne perd rien. Voilà.
Alors, nous nous excusons auprès des auditeurs car les statistiques ne serviront quasiment à rien et nous tentons juste de comprendre quelles sont les mesures de précaution qu'on peut adopter aujourd'hui face à ce virus qui touche pratiquement toute la sous-région ouest africaine. Docteur, je reste toujours avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque à prendre du thé dans les grains aujourd'hui comme on le fait d'habitude au Mali?
Un risque à prendre du thé.
Les verres ne sont pratiquement pas lavés.
Oui, les verres ne sont.
Se les passe à tour de rôle.
On revient à notre mesure d'hygiène.
Est-ce que c'est une bonne méthode d'abord?
Sur le plan santé publique, ce n'est pas une méthode très, très commode. On se met dans une situation à risque. C'est comme si on est dans une situation à risque zéro. Avec cette méthode que nous utilisons, on peut même être à l'origine de la transmission de même d'autres maladies qui n'est pas l'Ebola. Donc, c'est pour dire que du moment où on est face à cette situation, de faire énormément attention, d'observer tout ce qui peut être à l'origine d'une contamination, d'un contact rapproché et d'un contact répété. Donc, encore à la population de fournir beaucoup d'efforts et de comprendre que le temps de maîtriser cette épidémie, vraiment d'observer ces mesures et de ces mesures de précaution, ces mesures d'hygiène et on verra.
Alors, d'accord. Alors, à titre de rappel, le Mali fait partie des pays les mieux organisés, c'est l'OMS qui le dit. En termes de contrôle sanitaire aux frontières, peut-être que je me trompe ou que cette analyse se base uniquement sur le transport aérien. Est-ce que vous partagez cet avis au ministère de la Santé? J'imagine que oui.
Bien sûr que oui, parce que je ne parle pas en tant qu'observateur. Je le dis en tant qu'acteur, partie prenante. Je n'ai pas raté une visite, en tout cas d'officiel, ayant fait de telles déclarations en faveur du Mali. J'ai été à toutes les visites de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique depuis mars 2014 jusqu'à nos jours sur le terrain. J'ai couvert toutes les visites faites par les officiels de l'organisation, que ce soit l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, que ce soit l'OMS et tout. Donc c'est en connaissance de cause que je confirme ce que l'OMS dit en faveur du Mali par rapport à notre dispositif. Le directeur, je vais dire le docteur de l'hôpital Foussen Dao a dit quelque chose que je confirme. Aussi, le représentant de l'OMS, l'intervenant au nom de l'OMS a dit quelque chose. Mais j'aimerais apporter une toute petite clarification. Lorsqu'il s'inquiète que le car qui est emprunté par la défunte malade et sa grand-mère, je pense que sur ce plan, je ne veux pas dire quand même que le risque est minime, je suis en face d'un spécialiste, mais en fait, lorsqu'on observe et qu'on trouve que la malade qui est décédée d'Ebola était un enfant, on peut le dire, 2 ans et demi, c'est un enfant qui vient à peine commencer de marcher. Donc encore quand il s'agit d'un malade de cet âge, vous trouverez que la personne qui s'occupe de ce malade le porte avec beaucoup de précautions. Ça veut dire que l'enfant ne va pas traîner par-ci, par-là. L'enfant ne va pas faire des poignées de main avec d'autres personnes. L'enfant ne va pas acheter des bananes, prendre les jetons par-ci, par-là, la monnaie et tout, et tout. Donc, ça veut dire que le risque, selon moi, c'est principalement au niveau de sa grand-mère. Donc, c'est bon quand même que toutes les personnes ayant côtoyé la grand-mère et ensuite l'enfant en tant que tel, donc soient identifiées et mises sous observation. Cela est très important. Mais pour rassurer en tout cas la population, nous pouvons dire que pour ce cas-ci, même si le risque de contamination est assez énorme en matière d'Ebola, mais pour ce cas-ci, le risque est assez minime. Ça, il faut le reconnaître. D'accord. Et il faut le rappeler souvent pour apaiser les gens.
D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Markaché Daou, chargé de communication au ministère de la Santé. Alors, docteur Toumani Konare de l'hôpital Ousseyni Ndao de Kaï, vous venez d'entendre Markaché Daou, chargé de communication au ministère de la Santé, parler de... Il minimise un peu les risques. Quel est l'état de santé de la grand-mère qui accompagnait la petite fille?
Ouais, l'état de santé de la grand-mère est bon. Elle ne fait pas de fièvre, elle ne fait pas d'autres signes de la maladie ou d'autres maladies. Elle est sous observation, sa température est élevée matin et soir, et pour le moment, c'est dans les normes.
Alors, est-ce que vous confirmez cet optimisme de Markaché Daou par rapport aux soins que la petite fille a bénéficié durant son trajet, de son transport de la Guinée jusqu'à Kaï, le fait qu'elle bénéficie de beaucoup de soins de la part de sa grand-mère, et s'il y avait personne à risque, c'était plutôt la grand-mère. Pensez-vous que les risques sont minimes?
Ah, vous savez que M. Markaché est un homme averti, beaucoup plus averti que moi. Mais c'est vrai que dans mon intervention, c'est ce que j'avais dit.
Vous ne faites pas de langue Passant de
toutes les informations.
Vous ne faites pas de langue de bois, j'espère.
Oh non, pas du tout. Mais je dis que toutes les informations que nous avons partant de là, je peux dire que les risques sont minimes, ce qui confirme ce que je viens de dire. Mais si d'autres informations nous parvenaient qu'on n'avait pas, maintenant, bah, je dis. Moi, je pense que réellement, les risques peuvent être minimes.
Merci beaucoup, docteur. Vous êtes docteur Konare de l'hôpital Ousseyni Ndao de Kaï. Alors, docteur Guindo, vous êtes de l'Institut national de recherche en santé publique. Est-ce que aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'amélioration, de mise à niveau du dispositif. Pensez-vous que il faut apporter des améliorations, et si oui, dans quel domaine?
Je pense que oui. Je dirais oui parce que on peut toujours s'améliorer. On peut toujours s'améliorer malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place. On a vu qu'on a néanmoins eu un cas. Ce dispositif, il est bon, il était très bon, mais peut toujours être amélioré. Donc, le Mali a eu plusieurs rencontres avec différents partenaires du CDC, du NIH et d'autres partenaires. Donc, c'est avec ces partenaires, on a fait encore un contrôle de tous les dispositifs pour voir est-ce qu'on a encore des choses à améliorer. Et parmi ceux-ci, on a mis l'accent sur le personnel à former encore. Ceux qui sont là parce que juste peu de temps avant, on n'avait pas de cas. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire beaucoup de simulations pour dire que si on a un cas avéré, comment tout de suite plus d'une équipe puisse sortir et faire des prélèvements. Donc, la multiplication des équipes et aussi, on est en train de penser à des formes de décentralisation des équipes pour que la riposte puisse être le plus tôt possible et le plus accessible, voilà, le plus adéquat possible. Donc, pour cela, on est en train d'entamer et de continuer avec des séries de formations qu'on avait commencées. Même demain, à l'INRSP, on aura une formation qu'on va donner à des techniciens de laboratoire pour qu'ils soient encore outillés et puissent maîtriser encore les gestes qu'ils font tous les jours, mais cette fois-ci face à une situation très, très mortelle. Ouais.
Donc. Alors aujourd'hui, le Mali refuse de fermer ses frontières. Markaché Dao, vous êtes chargé à la communication du ministère de la Santé, précisément du ministre de la Santé. Vous êtes les yeux et les oreilles du ministre ici dans ce studio. Pourquoi le Mali n'a jusque-là pas fermé ses frontières?
Merci pour cette question assez récurrente à laquelle je m'attendais énormément. La question de savoir pourquoi le Mali n'a pas fermé ses frontières avec la Guinée, et pour être plus précis, nous ne savons pas pourquoi les pays qui ont fermé leurs frontières, mais nous savons pourquoi nous avons gardé les nôtres ouvertes. Nous avons analysé depuis mars 2014, juste l'apparition des premiers cas en Guinée et d'autres pays voisins de la Guinée. Nous avons compris qu'en gardant ouvertes nos frontières, nous serons respectueux du règlement sanitaire international qui déconseille en de pareilles circonstances de fermer les frontières, qui serait synonyme de rupture de communication. Donc nous avons analysé la situation comme ça. Nous avons aussi tenu compte du fait que les deux pays sont peut-être deux poumons dans le même corps, la Guinée et le Mali. La preuve en est que lorsque vous partez à la ville frontalière, à la ville frontière Kouré-Malé, vous trouverez qu'il y a deux familles. L'une est sur le territoire malien, l'autre est sur le territoire guinéen. Donc vous ne pouvez pas empêcher ces deux familles de se côtoyer, de se fréquenter. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect est que nos frontières, ce n'est pas au Mali seulement. Nos frontières dans les pays, dans plein de pays africains, sont tellement poreuses que prétendre les fermer, c'est prétendre, en tout cas, mettre une barrière sur une route goudronnée. Mais il y a d'autres paramètres qu'on ne peut pas maîtriser et c'est très difficile. Par exemple, il est avéré, en tout cas, que la transmission de la maladie à virus Ebola est majoritairement, en tout cas à la base, était en tout cas faite par les animaux. Alors, qui peut empêcher un animal de quitter,
de survoler
en tout cas une frontière, voilà, je ne sais pas, de nager peut-être dans un fleuve ou un marégot qui est un peu transnational. Alors, voilà plein de facteurs auxquels nous avons tenu compte. Et puis, pour ne pas, en tout cas, donner l'impression que nous avons fermé les frontières et nous avons empêché toute infiltration, ce qui n'est même pas possible. Alors, nous avons misé dans la communication. Et je vous l'expliquais tout de suite. Nous avons, à la place de la fermeture de frontières, mis nos efforts dans la communication. Et pendant 8 mois, cette communication a payé. Le seul cas que nous avons eu n'est pas la résultante d'une défaillance. C'est quelque chose qui devrait arriver et qui est arrivé. Ça, il faut le dire, parce que des pays mille fois mieux organisés que les pays africains les plus puissants, voilà, ont enregistré des cas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que un cas enregistré doit servir de leçon pour corriger les petites défaillances qui peuvent exister. Nous avons vu des pays voisins l'ont fait. Le Sénégal l'a fait, le Nigeria l'a fait, et plein de pays aussi peuvent, en tout cas, rééditer cet exemple sénégalais et nigérien. Donc, ne perdons pas d'espoir. Nous savons vraiment que nous pouvons arriver au bout du tunnel.
Alors, docteur Toumani Konaré de l'hôpital Fousséni Ndao de Kaye, y a-t-il des risques aujourd'hui que les populations boudent les centres de soins?
Tout à mon avis. Pas du tout. Dans un centre de santé, je crois qu'aujourd'hui, surtout, les dispositions sont beaucoup plus renforcées que jamais par rapport à cette maladie. Donc, s'il y a un risque, plutôt le risque est beaucoup plus élevé dans les ménages que dans les structures de santé aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous avez constaté, par rapport à la fréquentation, il y a eu une baisse ou bien comment ça se passe actuellement?
Oui, c'est vrai que les premiers jours, la fréquentation au niveau de l'hôpital Fousséni Ndao a baissé. Aujourd'hui, lundi, on a eu vraiment un rythme très élevé. Malgré la présence encore de l'épidémie, mais les gens sont venus, beaucoup de services ont connu leur niveau habituel, tel que la consultation externe, tel que la pédiatrie.
Merci beaucoup, docteur. Vous restez avec nous pour la suite du débat. Nous allons juste observer 2 secondes de pause avant de poursuivre avec la 3e partie.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Oui, Studio Tamani est aussi présent également sur la toile grâce à son site web www.studiotamani.org, sa page Facebook Studio Tamani. Vous êtes aussi ouverte, sans oublier les nombreux tweets auxquels vous pouvez réagir également à ce débat sur notre page Facebook. Nous parlons aujourd'hui encore et encore du virus Ebola et sachez que le débat est à sa 3e partie consacrée au risque de psychose lié au virus Ebola. Nos invités, Dr Toumani Konaré de l'hôpital Fousséni Ndao de Kaye, Dr Ibrahima Guindo de l'Institut National de Recherche en Santé Publique et Marc Haché Dao, chargé de communication au ministère de la Santé. Comment gère-t-on la peur au ministère de la Santé?
Marc Haché Dao. Merci. Au ministère de la Santé, j'avoue très sincèrement que nous sommes habitués à cette pression. Je ne dis pas peur, mais c'est une pression. Parce que chaque fois que la pression se fait sentir dans la population, nous en ressentons aussi. Donc nous commençons à nous en habituer, mais nous mesurons en tout cas l'ampleur de l'atteinte à notre endroit. Raison pour laquelle, chaque fois que cela est nécessaire, nous donnons l'information à temps et l'information transparente. Le ministre le dit, il le répète. Raison pour laquelle les partenaires qui sont, je vais dire nos partenaires techniques et financiers, qui sont en longueur de journée à nos côtés, nous ne souhaitons vraiment pas franchir une étape sans les associer, sans les informer en temps réel, parce que c'est avec eux que nous faisons ce combat. Et c'est avec les communicateurs que nous faisons ce combat, raison pour laquelle nous tenons à les informer au quotidien, raison pour laquelle nous recensons l'avis de la population à travers vous, les communicateurs, les journalistes, les communicateurs et tout. Et aussi, nous essayons de répondre à ces préoccupations, raison pour laquelle ce que vous pouvez peut-être appeler la peur, nous la comprenons comme étant une attente de la population à laquelle nous réagissons de façon proactive. Donc, une peur, nous ne la connaissons pas, mais l'attente de la population, c'est bien de cela qu'il s'agit.
Alors, aujourd'hui, les experts de l'OMS parlent d'une catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest. Le Mali va-t-il échapper à cette catastrophe, Dr Guindo de l'INRSP?
Catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest, c'est une difficile question. On est face à un virus qui n'a pas cessé de nous surprendre. Donc, une catastrophe, si ça ne saurait trop dire de l'OMS, entre guillemets, moi je le dirais, n'est pas impossible. Mais avec les mesures qui sont en train d'être renforcées, non seulement dans les pays les plus touchés, que ce soit la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, le renforcement des dispositifs, que ce soit médical, psychosociaux et sur tous les plans, et l'aide internationale qui sont en train de parvenir. Donc on est en train, je ne dirais pas d'aller vers une maîtrise, mais on est en train d'avoir de plus de possibilités d'aller vers une maîtrise de l'épidémie. Donc les catastrophes, généralement, on se base sur des projections, des simples projections sur quand rien n'est fait. Donc, plusieurs mesures sont en train d'être faites. Avec un pays comme le Mali et tout ce dispositif qui a été mis en place, avec toute la population, je dirais, avisée du risque et qui connaissent et qui maîtrisent, je dirais, avec l'effet de la médiatisation, tous les risques, je dirais que un cas qui s'exprime ne peut pas nous échapper, ni à aux agents de santé, ni à la population. Parce que tout le monde est informé et la conséquence immédiate de cela, nous voyons et à tous les niveaux, dans tous les services, dans toutes les familles. Tout le monde sait ce que c'est qu'Ebola et tout le monde respectent les mesures. Il y a des savons, il y a des solutions hydroalcooliques, les mesures. Les gens se saluent maintenant au style des rappeurs, voilà, avec des coups de poing, des trucs. Donc ça montre que le message passe. Quand nous nous voyons cela, on est vraiment réconforté. Donc à ce niveau, on va mettre entre guillemets la catastrophe et voilà.
Entre tout guillemets. Ça. Alors, je voudrais juste que vous interveniez par rapport à ce que nous avons dit dans la deuxième partie, par rapport à cette fermeture des frontières. Pensez-vous que c'est une mesure anti-panique?
La fermeture des frontières, comme mon collègue l'a si bien dit et qu'il a si bien défendu, n'est pas peu quelque part peut-être. Est une solution, mais ne peut pas empêcher la transmission de l'épidémie. Les frontières étaient peut-être fermées dans d'autres pays, mais ils ont eu des cas. Donc, c'est une preuve palpable qui montre que une frontière fermée ne va pas empêcher une contamination. Personne ne peut empêcher la contamination des autres choses du monde, la migration du monde animal et même des humains. Parce que les gens ont souvent, et la façon dont nos zones sont structurées, ont les possibilités de passer les frontières. Parce que la fermeture des frontières, dans nos conditions, ce ne sont que les voies, les routes nationales qui sont fermées.
Donc, il y a des multitudes de routes.
Voilà, des multitudes de routes que les gens peuvent emprunter. Donc, et mettre l'accent sur la communication et que les gens soient avisés, quelle que soit dans leur situation. Et en ce moment, chacun est conscient du geste qu'il pose. Et chacun est conscient de ce qui peut amener comme problème s'il ne respecte pas les consignes de ce qui arrivera. Donc, on voit visiblement que le message a passé et on est vraiment, je le répète, réconforté de cette réaction de la population.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Guindo. Alors, docteur Toumani Konaré de l'hôpital Fousséni Ndao de Kaï, aujourd'hui, tout le monde espère, l'OMS dit que les vaccins seront disponibles en décembre, mais d'ici là, que fait-on?
D'ici là, nous continuons à sensibiliser la population sur la mesure de prévention. Nous continuons à chercher activement les cas de contact et nous suivons vraiment les cas de contact qui sont à notre niveau. Le plus important vraiment, c'est cette sensibilisation sur la mesure de prévention qui vient d'être évoquée et c'est ce que nous faisons par tous les moyens. À Kaï, demain, le gouverneur a organisé une rencontre avec les Rokotrad, les réseaux des communicateurs traditionnels, voilà, pour encore davantage informer, sensibiliser sur ces mesures-là.
Merci beaucoup, docteur. Alors, je vous propose d'écouter l'avis du citoyen lambda, de monsieur et madame tout le monde que nous avons recueilli aujourd'hui au studio.
Oui, je m'inquiète beaucoup du moment où on ne sait même plus qui et qui ont été en contact avec la petite décédée et des inquiétudes par rapport au fait que tout au long du trajet, des personnes ont été en contact avec cette dame et ces personnes, il n'est pas sûr de les retrouver.
Oui, ça nous fait très peur. Ici, nous ne sommes pas protégés. Il y a des gens qui mangent et ils ne lavent pas les mains.
Moi, personnellement, je n'ai pas peur parce qu'il y a des pratiques qu'il faut adopter et beaucoup de personnes n'adoptent pas ces pratiques-là. C'est pourquoi je dis que j'ai peur pour les autres, pas pour moi.
C'est inquiétant. Quand on dit l'Ebola est dans le pays, tout le monde est inquiet. Pour ne pas que ça affecte le monde, parce qu'on peut s'attendre à tout avec l'Ebola.
La situation est plus que dramatique. Il ne faut pas le prendre à la légère parce que c'est un problème de santé publique. Et ensuite, le problème, il faut voir au niveau des frontières. Parce qu'on a une frontière poreuse.
Étant donné ce qui s'est passé en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, la situation est très inquiétante et préoccupante. Donc, elle nous fait peur.
Alors, monsieur et madame tout le monde, divisé sur la question de la peur, Markatié Daou, vous êtes le chargé à la communication du ministère de la Santé. Pourquoi ne faut-il pas avoir peur aujourd'hui avec ce cas?
Merci. Je crois que la synthèse de mon intervention permet de se faire sa religion sur pourquoi ne pas avoir peur. Je pense bien que le dispositif qui était déjà sur le terrain, ajouté, renforcé par les mesures supplémentaires qui s'y sont ajoutées, et aussi la communication qui est en train d'être faite maintenant sur le sujet, d'abord, ça va permettre aux gens de savoir d'abord tout sur cette maladie, les modes de transmission et tout. Donc maintenant, avec cette nouvelle situation, que l'ensemble de la population savent réellement que Ebola c'est une réalité et que c'est pas fait seulement, c'est pas une maladie seulement des pays côtiers et que ça peut arriver chez nous. Donc voilà un peu la situation qui peut nous amener à ne pas avoir peur et à prendre la chose au sérieux sans pourtant céder à la panique. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce. Cette question.
Alors nous allons accueillir Dr Toumani Konare de l'hôpital Fousséni Ndao de la région. Aujourd'hui, nous voyons un peu dans beaucoup de pays, dès que un événement du genre surgit, c'est une cellule psychologique, une cellule de crise psychologique qu'on met en place. Aujourd'hui, en Afrique, il est très difficile, quasi inexistant ce dispositif. Est-ce que à Kaï, ce genre de précaution a été mis en avant?
À Kaï, ça a été mis en avant puisque ça a été même discuté à la réunion journalière qui se tient avec la forte équipe d'appui qui est venue du ministère de la Santé. Et présentement, le professeur Sambasso et d'autres sont en train de le faire, mais nous attendons dans les 10 jours à venir à l'arrivée des spécialistes en la matière. Mais je voulais juste réagir par rapport aux différentes interventions par téléphone. Quand les gens disent qu'ils ont peur, vraiment moi je suis très rassuré par cela. Pourquoi? Puisqu'on a vu que dans beaucoup de pays, c'est là où l'épidémie a fait beaucoup de dégâts. C'était le plus souvent dû au fait que les gens n'y croyaient pas. On a vu dans certains pays, les gens ont été même tués. Les gens disent que c'est pas vrai, c'est les blancs. Mais si les gens prennent peur, ça veut dire qu'on y croit. Et je crois que les mesures de prévention seront respectées.
Alors, docteur Guindo, Ibrahima Guindo de l'Institut national de recherche en santé publique, est-ce que une cellule de crise, voire une cellule de prise en charge psychologique est nécessaire dans ce cas?
Une cellule de prise en charge psychologique est toujours nécessaire. Je dirais que c'est dans le dispositif de la riposte, il y a après l'intervention rapide. Il y a une équipe qui suit pour les contacts. Et cette équipe de contacts, qui sont très bien formées et bien outillées depuis le début de l'épidémie, ont dans les méthodes d'intervention des concepts sur le plan psychologique. Et ils savent à chaque contact qu'est-ce qu'il faut dire pour, sur le plan psychologique, essayer de maîtriser le patient qui est un cas contact. Donc ce sont des notions ce sont des personnes qui ont un paquet d'informations de plusieurs disciplines et qui vont comme rassureurs auprès de ces contacts et les suivre. Donc au-delà de ceci, il y a ceux qui viennent comme des traceurs également, qui sont en charge de prendre le relais, sont également outillés de ces mêmes connaissances. Donc, pour dire que si on a une cellule de crise psychologique, donc cela viendra appuyer ces dispositifs-là qui est déjà là et qui fonctionne bien pour que tous ensemble, on puisse arriver à vraiment un état de
stabilisation
voilà, de la population pour ceux qui sont très très inquiétés.
Merci beaucoup, docteur Guindo de l'INRSP. Alors Makatié, l'OMS avait annoncé les premiers vaccins en janvier 2015. Aujourd'hui, ça a été ramené à décembre 2014. Est-ce que ces vaccins sont sûrs à 100%? Est-ce que le Mali en aura?
Merci pour cette question. Juste en quelques secondes, je pense bien que c'est des vaccins dont l'efficacité a été attestée à 100% sur les animaux. Cela est déjà un motif de satisfaction. Et aussi, quand les agents de santé, les professionnels du secteur de la santé acceptent d'être, en tout cas, de recevoir ce vaccin en premier lieu, ça aussi, c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Donc, nous espérons que ce vaccin, dont les résultats seront attendus en fin de ce mois, vont quand même donner satisfaction.
Merci beaucoup, Makatié. Nous sommes au terme de ce débat consacré encore une fois au virus Ebola. Nous avons évoqué cet unique cas jusque-là au Mali qui a provoqué la mort de cette petite fille qui est survenue, qui provenait de la Guinée avec sa grand-mère et est parvenue à se rendre en bus sans aucun soupçon des services sanitaires jusqu'à Kaï, à environ 600 km de Bamako avant son décès le vendredi dernier. Voici les axes, le point de la situation, les dispositions du plan de contingence, les risques, cette question, les risques. Risque-t-on une psychose au Mali? Alors, nos invités, Dr Toumani Konare de l'hôpital Fousséni Ndao de Kaye, Dr Ibrahima Guindo de l'Institut National de Recherche en Santé Publique et Marc Achedao, chargé de communication au ministère de la Santé. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la technique, Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.